Voilà, j'espère que vous avez en main cette arme que le Seigneur nous a donnée, et la parole de notre Dieu. Alors, dimanche dernier, mais aussi cette fois-ci, eh bien, deux fois d'affilée, une prédication sur un texte biblique. Alors, oui. Voilà, alors on me dit que les ados, donc une fois un dimanche sur deux, ont leur temps ensemble. Donc voilà, hein, c'est un petit peu particulier, l'organisation, ça reprend tout doucement, c'est donc la première fois qu'ils reprennent. Oui, nos ados se retrouvent ensemble un dimanche sur deux pour étudier les doctrines de l'Écriture, étudier ensemble des textes avec certains des nôtres. Voilà, alors je disais que vous avez cette arme, du moins je l'espère, cette arme de la parole de Dieu en main. J'ai choisi donc deux fois de suite d'avoir une explication de texte, c'est-à-dire de prendre le texte lui-même et puis de l'étudier un petit peu mot après mot ou phrase après phrase, donc pas une prédication classique, mais une exposition texte. Je crois que cela fait du bien de revenir régulièrement à la parole de Dieu, au texte. Je disais, c'est une arme, c'est une épée, et c'est elle qui fait du bien à nos cœurs sous l'action du Saint-Esprit. Et donc, la semaine dernière, nous avons regardé 1 Thessaloniciens, les versets 1 à 3. Aujourd'hui, nous allons regarder les versets 4 à 7. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Nous l'avons dit dimanche dernier, la foi, l'espérance et l'amour sont les traits fondamentaux des chrétiens de Thessalonique. C'est en tout cas ce que l'apôtre Paul dit au verset 3 de notre texte. La foi, l'espérance et l'amour. Et ces trois traits fondamentaux devraient être aussi les marques de notre vie. Quand nos parents, quand nos amis, quand nos collègues, quand nos voisins nous regardent vivre, ils devraient y découvrir la foi, ils devraient y découvrir l'espérance et l'amour. Et si ces choses ne sont pas dans nos vies, c'est certainement qu'il nous manque une vie avec Dieu et qu'il nous manque un engagement vrai et conséquent avec le Seigneur. Après avoir dit ces trois traits fondamentaux de tout vrai chrétien, l'apôtre ajoute ceci au verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Paul s'adresse donc à ces chrétiens de Thessalonique en les appelant frères. C'est ainsi qu'il a coutume d'appeler les chrétiens. Dans ce texte de 1 Thessaloniciens, très court, 5 chapitres seulement, il utilise 15 fois ce mot. Mais quand nous lisons les autres textes, les autres épîtres de l'apôtre, nous découvrons que c'est là un mot habituel dans ses écrits, que c'est là un mot habituel quand il parle des autres croyants. Ce n'est pas un mot utilisé comme cela pour rien. Chaque fois que Paul utilise un mot et qu'il le répète, c'est parce qu'il a une affirmation, un objectif, et c'est parce qu'il veut nous enseigner aussi un quelque chose. Avec ce mot, je crois que tout d'abord, l'apôtre montre qu'il ne se situe pas au-dessus des autres chrétiens. Certes, il est apôtre, certes, il a un ministère particulier, certes, quand nous le regardons, on découvre un homme de valeur, un grand, mais il nous dit par ce mot et qu'il est un frère parmi les frères. Et il affirme une chose essentielle, c'est l'égalité de tous ceux qui sont rachetés. Il affirme notre égalité devant Dieu le Père. Il n'en est pas un ici plus grand que l'autre. Alors nous pouvons avoir des responsabilités différentes, nous pouvons avoir des engagements différents, nous pouvons dans le corps de l'Église intervenir de manière très différente. Mais il est une chose certaine que nous sommes tous sur un plan d'égalité devant le Père. Il n'en est pas pour lui un plus grand que l'autre. Nous sommes enfants de Dieu devant lui. Alors, en utilisant ce mot, je crois que non seulement il affirme notre égalité de racheté devant le Père, mais il souligne aussi le lien qui nous unit les uns aux autres. En nous convertissant, en laissant Dieu intervenir dans notre vie et faire de nous des enfants de Dieu, eh bien, nous sommes devenus membres d'une même famille, de la famille de Dieu. Nous appartenons à un corps, au même corps qu'est l'Église. Et dans un très beau texte de 1 Corinthiens 12, l'apôtre évoque ce corps et les différents membres de ce corps. Les bras, les jambes, enfin, il y a toutes sortes de membres, mais un même corps, un seul corps. Et nous avons ensemble le même Père. Et je crois que cela est important d'entendre de la bouche de cet apôtre, de l'apôtre Paul, et dire, eh bien, oui, vous comme moi, nous appartenons à cette famille, à ce corps. Nous avons ensemble le même Père. Nous sommes ensemble liés, appartenant à ce corps de l'Église. Hier, vous avez entendu notre frère malgache qui est arrivé il y a quelques semaines maintenant dans notre communauté. On ne le voit pas le dimanche, mais on le voit le dimanche après-midi, de temps en temps dans la semaine, il apparaît. Mais ce qui est fantastique, c'est que il est arrivé, et le jour où il est arrivé avec quatre ou cinq de ses compatriotes, avec leur vélo à des télécoms. Et on s'est entretenu, mais quelques instants après, eh bien, nous savions que nous appartenions au même corps, à la même famille. Et c'est une chose étonnante, mais une chose très belle de découvrir de ses frères et de ses sœurs qui arrivent d'ici ou de là, et de découvrir très vite qu'effectivement, nous sommes frères et sœurs et que nous avons ce lien et qui nous unit. Or, les enfants d'une même famille sont différents, hein, les uns des autres. Vous savez que j'en ai cinq, hein, cinq enfants, et quand je regarde mes enfants, je les découvre très différents l'un de l'autre. Et puis, ils suivent chacun un chemin différent, hein, chacun un petit peu son métier, sa vie, sa construction particulière. Mais ensemble, nous formons cette famille humaine et c'est très beau de voir nos enfants et maintenant avec leurs compagnons et de vivre la vie de famille, de vivre de belles choses ensemble, de vivre nos joies et de vivre nos peines. Et je me suis dit que c'est de même, et j'allais dire même encore plus fort dans l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous nous retrouvons ensemble des frères et des sœurs, très différents les uns des autres, d'origine, de métier, de manière d'être, de construire nos vies, de construire nos familles. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait ce respect des autres et de leur manière d'être et de vivre leur construction pour le Seigneur, leur vie avec le Seigneur. Mais de vivre ce lien de la famille de Dieu, de le vivre d'une manière réelle et profonde. Les mots de Paul sont là, clairs et nets. Il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. N'est-ce pas? Il regarde ces femmes, ces hommes de Thessalonique et il leur dit, nous savons que vous êtes des frères et des frères que Dieu aime. Alors autrefois, l'apôtre se vantait d'appartenir au peuple juif. Il se vantait, n'est-ce pas, d'être pharisien parmi les pharisiens. Mais aujourd'hui, des années après sa conversion, nous le regardons et nous découvrons un apôtre qui a parcouru beaucoup de chemin. Il regarde, n'est-ce pas, et il s'émerveille. Il s'émerveille en regardant ces Juifs qui se sont tournés vers Jésus, le Messie, et qui l'ont saisi comme sauveur personnel. Et il regarde aussi émerveillé ces non-Juifs, ces païens de Thessalonique. Il les regarde et il découvre en eux des sœurs et des frères. Alors nous aussi, nous devons regarder autour de nous et nous émerveiller. En regardant l'autre, en découvrant l'autre et qui est là devant Dieu et qui est là à suivre le Seigneur, à aimer le Seigneur. Et je voudrais simplement vous poser cette question. Est-ce que vous vous émerveillez à regarder ceux et celles qui sont assis à côté de vous que vous allez retrouver à la sortie? Alors, je le sais, hein, on a dans une famille des frères et des sœurs, et parfois, il y a plus d'atomes crochus entre tel ou tel. Mais il y a un appel à nous émerveiller à cause de chacun et de chacune ici. Alors, ce verset 4 m'a inspiré aussi une autre réflexion. Il est dit, nous savons, frères, bien-aimés. Et Paul ajoute, n'est-ce pas, ce mot en parlant des croyants, des chrétiens de Thessalonique, qu'ils sont aimés de Dieu. Et il dit même, un peu plus que ce que je viens de vous dire, il nous dit qu'ils sont bien-aimés de Dieu. Alors, par ce mot, Paul souligne une chose essentielle. Il souligne que ces hommes et ces femmes de Thessalonique ont été aimés de Dieu, mais qu'ils demeurent l'objet de l'amour du Seigneur. Et je me suis dit, en regardant ce mot, que plus qu'une mère, plus qu'un père, et qui regarde son enfant avec bonheur, avec un cœur plein de tendresse, ce texte nous dit que Dieu te regarde et que Dieu me regarde. Dieu regarde chacun de ses enfants avec bonheur, avec un cœur rempli de tendresse. Et je voudrais vous poser cette question. Avez-vous réalisé? Est-ce que nous réalisons chaque jour de notre vie que nous sommes aimés, que nous sommes bien-aimés de Dieu? Oh, regardez un peu à l'amour de votre mère, à l'amour de votre père, à l'amour de vos proches, et dites-vous que cela est tout pâle, que cela est tout petit en comparaison de ce Dieu grand qui vous regarde, qui vous aime avec bonheur et avec tendresse. Et alors, Paul va mettre de suite en jeu la preuve de l'amour de Dieu pour ces Thessaloniciens. Il leur dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. À ce mot, vous avez été élu. Ce mot nous dit, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous dit ici que Dieu a choisi à Thessalonique des hommes et des femmes, et que Dieu a donné à ces hommes et à ces femmes la vie éternelle. Et Paul regarde ces hommes et ces femmes de Thessalonique et leur dit, je sais, mais avec Timothée et Silas, nous savons que vous êtes ces frères bien-aimés, ces élus de Dieu. Alors, certes, ici nous avons ce mot. Mais il est également clair, et dans tous les textes de l'Écriture, que Dieu tient chaque individu pour responsable de sa décision de croire ou de ne pas croire. Et les Thessaloniciens devaient prendre position face à l'annonce du message, de la bonne nouvelle, de ce que le Christ a fait sur la croix. C'est certainement une chose difficile quand nous regardons les textes d'accepter, puis de comprendre ces deux vérités qui apparaissent contradictoires. D'une part, ce Dieu qui a choisi, et d'autre part, cette nécessité pour chaque homme de se décider, de prendre position. Or, je crois que personne n'a jamais pu et ne pourra jamais expliquer ces deux parallèles, ces deux vérités qui sont là. Ça dépasse un petit peu notre entendement, mais n'est-ce pas la particularité du chrétien, c'est de croire. On ne comprend pas tout, mais on croit et on prend à pleine main ce que l'Écriture nous dit. Et elle nous dit que Dieu a choisi, mais elle nous dit aussi que tout homme doit choisir. Et je voudrais en profiter pour poser cette question. As-tu choisi? As-tu choisi? N'est-ce pas, le texte est là pour nous dire d'une manière très claire que Dieu nous aime. Et que Dieu, comme il a voulu le salut, comme il a voulu la vie pour les Thessaloniciens, il veut le salut pour toi, pour chacun d'entre nous. Et il y a donc cette responsabilité à laquelle nul ne peut échapper devant la croix et devant le Christ. Nous devons nous décider. Il y a une décision personnelle de plier le genou et de dire « Oui, ce que tu as fait sur cette croix, Seigneur, c'est pour moi. Ce sang versé à la croix, c'est pour moi. » Et de prendre à pleine main le salut et la vie offertes par le Seigneur à chacun, à chaque homme. Oui, Paul se réjouit car il voit à Thessalonique des hommes et des femmes qui se sont décidés. Et pourquoi dit-il ce mot « nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus ». Pourquoi dit-il « nous savons » Eh bien, simplement parce qu'il regarde et il voit à Thessalonique et des femmes et des hommes et qui avancent à contre-courant, qui, malgré la persécution, malgré les difficultés, ont choisi le Christ et ont choisi de marcher pour lui. C'est parce qu'il voit qu'il peut dire « je sais ». Eh bien, il importe également que dans nos vies, les choses se voient. Et que se voient ces trois points fondamentaux dont on a parlé l'autre fois, que je soulignais encore tout à l'heure, que l'on voit notre foi, que l'on voit notre espérance, que l'on voit notre amour pour le Seigneur. Alors, les mots sont là, encore pour nous interpeller au verset 5, où il est dit « car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement ». Je pense que Paul aime marquer ce qu'il dit avec trois mots. Et là, à nouveau, il nous dit trois mots d'une manière très forte. Il nous dit que la parole, que l'évangile est venu jusqu'aux Thessaloniciens, un, avec puissance, deux, avec l'Esprit Saint, et trois, avec une pleine certitude. Donc, l'apôtre évoque l'annonce de l'évangile à Thessalonique. En écrivant aux Corinthiens, à une autre occasion, l'apôtre a dit ceci: pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est donc ce qu'il a fait en arrivant à Corinthe. Il a parlé sans supériorité de langage, sans toute la sagesse humaine. Le texte nous dit et qu'il a annoncé, proclamé le témoignage de Dieu. Et à Corinthe, beaucoup d'hommes et de femmes ont plié le genou devant le Seigneur. Et il est arrivé à Thessalonique et il a fait exactement la même chose. Il n'a pas partagé des opinions ou une philosophie humaine. Il a prêché Jésus. Il a prêché Jésus crucifié. Il a prêché Jésus ressuscité. Il a dit ce Jésus annoncé depuis tous les temps et qui est venu, lui, le Fils de Dieu, mourir pour nous sur la croix. Et il nous dit que cette parole, cette prédication, ce témoignage, tout simple, sans artifice de langage, ce témoignage dit dans la certitude de la foi, eh bien, ce témoignage est devenu sous l'action du Saint-Esprit une parole vivante, une parole efficace. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que cette parole est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Et cette parole est devenue une épée à double tranchant. Et des païens et qui étaient à se prosterner devant toutes sortes d'idoles, ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Quand nous lisons ce texte, nous découvrons que c'est le Saint-Esprit qui s'est saisi des mots de l'apôtre pour œuvrer avec puissance dans le cœur des Thessaloniciens. Je crois qu'il en est de même lorsque nous prêchons, mais lorsque nous témoignons aussi auprès des nôtres, de nos parents, de nos amis, de nos collègues. Dieu ne nous demande pas de savoir bien parler, de savoir bien philosopher, de savoir avancer toutes sortes d'opinions. Il nous demande de faire ce que Paul a fait à Thessalonique ou à Corinthe, de témoigner, de dire avec certitude, avec force, ce que le Christ a fait à la croix, de dire Jésus et ce qu'il est. Et ce texte est en train de nous dire que Dieu se saisit de nos mots, dit parfois avec une immense faiblesse, et dit dans la crainte, il se saisit de nos mots pour œuvrer avec puissance dans le cœur des hommes, aujourd'hui comme il l'a fait hier. Vous savez, quand on lit ce texte, où il est dit que l'évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude, certains lisent ce texte en imaginant que toute chose, que des choses extraordinaires accompagnaient la prédication. Mais dans ce texte, il n'est pas question de miracles ou de choses extraordinaires. Il est question d'une chose extraordinaire. Ce que Dieu est capable de faire avec tes mots et avec mes mots. Ou dans d'autres textes, il est parlé de choses extraordinaires que le Christ, que le Seigneur peut faire, hier comme aujourd'hui. Mais dans ce texte-ci, il est dit, et je voudrais le souligner encore, que Dieu lui-même, que le Seigneur lui-même, s'empare de nos mots pour, et qu'ils deviennent, sous son action, puissants. Et qu'il soit saisi par l'Esprit Saint et frappe fort dans des cœurs d'hommes et de femmes. Et il vous est demandé, mais demandé simplement de dire ces choses avec la certitude de la foi, avec les convictions absolues de ce qu'est Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Vous avez... Quand il est parlé d'une épée à double tranchant, d'une épée et qui peut être acérée et pénétrée le cœur des hommes et des femmes, il est parlé de la parole, mais il est parlé de cette parole dite par vous et par moi dans les occasions de notre vie. Alors, on regarde ce texte et on découvre la réaction de ces Thessaloniciens. Et on découvre dans la réaction de ces Thessaloniciens qu'il y a une œuvre surnaturelle de Dieu, une œuvre dans ses cœurs pour en faire des enfants de Dieu. Je voudrais rajouter à ce que je viens de dire que Paul et ses compagnons ne se sont pas contentés de prêcher avec conviction, ne se sont pas contentés d'un message convaincant. Ils vivaient également en conformité avec ce message. Ils ont vécu en conformité avec ce message à Thessalonique. Mais ils ont vécu aussi en conformité avec ce message partout où ils allaient. Vous savez en effet ce que, à cause de vous, nous avons été et parmi vous, et vous êtes devenus nos imitateurs. Oh, je voudrais vous dire qu'il ne suffit pas de dire des mots, il faut que les mots soit aussi accompagné d'une vie. D'une vie vraie, d'une vie qui essaie de vivre pleinement ce que l'Écriture nous dit. Aujourd'hui, nous regardons et nous voyons tant de chrétiens qui se conforment au monde, qui se conforment à ce que tout autour de nous, jeunes et moins jeunes vivent, et puis ils poursuivent leur vie, mais il y a un manque extraordinaire, c'est que leur vie n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir auprès des leurs, auprès de leurs enfants, auprès de leurs parents, auprès de leurs amis. Je voudrais vous supplier. Faites attention à votre vie. Votre vie est en train de dire d'une manière claire ce que vous vivez à l'intérieur. En tant que chrétien, nous devons dire avec nos mots, mais dire aussi avec nos actes que nous aimons Dieu et que nous nous soumettons à la parole du Seigneur. Oh certes, Dieu nous accueille tous. Et même si notre vie n'est pas la gloire de Dieu, eh bien, nous pouvons être accueillis et et nous pouvons vivre des choses, mais rappelons-nous que le texte est là à nous dire que les conséquences seront visibles tout autour de nous. Avec ce texte, j'aimerais encore dire un mot. Vous êtes devenus mes imitateurs et ceux du Seigneur. Les Thessaloniciens ont d'abord regardé ces chrétiens, ces serviteurs de Dieu, et dans un premier temps, ils se sont dit, eh bien voilà, on va lutter pour vivre comme eux. À Thessalonique, là où il y avait toutes sortes d'idoles, là où c'était difficile, là où il y avait leur famille, là où ils savaient qu'il y aurait de la haine, qu'il y aurait de la persécution, ils ont décidé, quoi qu'il leur en coûte, de vivre leur foi. Et ils ont imité dans un premier temps ces serviteurs de Dieu. Vous savez, nous aussi nous entendons les mots de la part de chrétiens, de serviteurs de Dieu. Et puis, nous nous mettons peut-être à les imiter. Et je crois que c'est tout beau. Mais ici, il y a une deuxième étape. Il est dit, vous êtes devenus nos imitateurs. Et puis, le texte rajoute, et ceux du Seigneur. Ils ont très vite découvert que s'il est beau d'essayer de vivre comme d'autres chrétiens qui nous donnent de belles leçons, qui sont de beaux modèles, la meilleure des choses, c'est de vivre, d'essayer de vivre comme le Seigneur, de lui ressembler, comme on le chante, un tout petit peu, dans tous nos actes, dans toute notre vie.